Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'élection présidentielle américaine vue du Sahel et les enjeux de cette élection pour les relations entre les États-Unis et les pays sahéliens. L'élection intervient dans un contexte de refroidissement des relations entre Washington et certains pays de la région, comme le Niger, où les autorités ont fait fermer la base militaire américaine d'Agadez. À suivre le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa, et l'analyse de Sidi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Nous parlerons ensuite du Ghana que des combattants islamistes utilisent discrètement comme base arrière, logistique et médicale, selon plusieurs sources. Le fait marquant de la semaine, c'est l'attaque d'une base militaire par des djihadistes de Boko Haram au Tchad. Attaque au cours de laquelle une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués. Nous retrouverons en N'Djamena le journaliste Juda Alaoundoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire. Nous terminerons cette émission par la deuxième édition du Festival International du film de Nouakchott qui s'est achevé samedi dernier. Réunissant des participants de 18 pays, ce festival veut redonner un nouvel élan au cinéma mauritanien. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. La situation politique ici aux États-Unis et l'élection présidentielle sont suivies un peu partout dans le monde, y compris dans le Sahel où certains pays ont des relations difficiles avec Washington. Au Niger, par exemple, où les autorités militaires ont fait fermer une base militaire américaine, notre correspondant Abdul Razak Idrissa a recueilli quelques avis. Voici son reportage.
Dirigé depuis plus d'une année par des militaires qui prônent un souverainisme et une redéfinition des rapports avec les pays occidentaux, beaucoup de Nigériens suivent comme ils peuvent la campagne présidentielle américaine et fondent l'espoir d'une bien meilleure coopération avec la future administration.
Les élections qui s'annoncent aux États-Unis sont peut-être un pas, disons, d'accord entre notre État et les États des États-Unis. Et vraiment, ça sera promoteur et beaucoup plus bénéfique entre les États des États-Unis et notre peuple.
Nous attendons de celui qui sera élu qu'il y ait une coopération sincère, une coopération qui sera plus visible, qui fera sentir les populations cette coopération. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau de l'AES, il y a l'insécurité. Ce dont on a besoin, c'est une coopération qui puisse nous aider sincèrement à lutter contre ce terrorisme qui nous empêche de dormir.
Pour ce leader politique, Tahirou Diemba, l'administration qui sortira des urnes au soir du 5 novembre prochain doit tenir compte de la nouvelle orientation prise par les autorités nigériennes.
Nous savons que les Américains sont également très jaloux de leur souveraineté, de leur indépendance, de leur identité. Et nous voulons nous également affirmer dans le cadre de l'AES. Il faut que le président américain qui va arriver au pouvoir ou la présidente américaine qui va arriver... Mais prennent en compte cet aspect de la chose. Nous sommes prêts à discuter, à vivre avec les Américains. On a fait ça depuis l'indépendance, depuis la nuit des temps. Et ils nous ont apporté beaucoup de choses. Et nous pensons aujourd'hui, nous aussi, c'est notre tour d'apporter quelque chose à la planète.
La coopération dans les domaines humanitaires et du développement entre le Niger et les États-Unis s'est poursuivie malgré le renversement du régime démocratique il y a un peu plus d'un an. Et même si la coopération militaire a été rompue, le commandant d'AFRICOM, la force américaine pour l'Afrique, a déclaré au mois d'août dernier que son pays a encore des objectifs sécuritaires communs avec le Niger. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdul Razak Idrissa que nous retrouvons immédiatement à Niamey au Niger. Bonsoir Abdul Razak.
Bonsoir Mamadou.
Alors vous l'avez dit dans votre reportage, hein, beaucoup de Nigériens suivent comme ils peuvent la campagne électorale américaine. Est-ce que, Abdulrazak, les médias locaux consacrent une attention particulière à cette élection? Quels sont les moyens par lesquels les Nigériens suivent et discutent de cette actualité?
Alors, une attention particulière, je ne dirais pas, même si c'est quand même la présidentielle américaine, donc c'est quand même un enjeu important pour l'ensemble du monde, pas seulement pour le Niger. Mais les médias, ce qu'ils font jusqu'ici, en tout cas moi de ce que j'ai observé, c'est plutôt une reprise déjà de ce que les autres médias américains et occidentaux de façon générale produisent sur cette élection. En tout cas, jusqu'ici, moi j'ai vu de production ou de tranche horaire spéciale consacrée à l'élection américaine ici sur la place à Niamey, la capitale. Vous demandez également comment est-ce que les Nigériens suivent et discutent de cette actualité. Eh bien, c'est beaucoup plus à travers justement les réseaux sociaux, ceux qui ont des intérêts, ceux qui sont intéressés par les politiques, par la politique internationale. Ils essaient d'en discuter sur les réseaux sociaux, mais de médias traditionnels comme cela, moi, je n'ai pas vu, en tout cas jusqu'ici, des tranches horaires consacrées à cette élection américaine.
Alors, au niveau de l'ambassade des États-Unis là-bas, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour permettre aux Américains de faire campagne, de voter, de contribuer à cette élection et de permettre aux Nigériens, par exemple, de venir voir comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu là-bas au niveau de l'ambassade?
Pas à ce que je sache, en tout cas pour l'instant. En tout cas, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu du côté de l'ambassade une communication dans ce sens, disons dans le sens de ce qui se passe ici au Niger pour les Américains dans le cadre de cette campagne en vue de la présidentielle. Pas plus que donc aussi pour les Nigériens pour venir voir. En tout cas, parce qu'il faut peut-être le dire ici, l'ambassade n'est pas assez bavarde, on va dire ainsi. Même si c'est quand même les élections. En tout cas, moi, de mon statut de journaliste, je n'ai pas entendu jusqu'à cette date encore quelques dispositions particulières qui ont été prises. Certainement, elles le sont, mais elles ne sont pas portées en tout cas à la connaissance du grand public à travers notamment les journalistes.
Merci beaucoup, Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Et pour une analyse, retrouvons Sedi Kaba à Paris. Il est journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel. Bonsoir, Sedi Kaba.
Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs.
Alors, la présidentielle américaine a lieu le 5 novembre prochain. Quelles sont, selon vous, les attentes des pays du Sahel vis-à-vis du prochain président des États-Unis?
Oui, au Sahel, comme dans les autres régions du monde, il y a un intérêt à regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ça peut changer le cours du monde. Donc, de ce point de vue, les populations sahéliennes et même les dirigeants du Sahel regardent avec la plus grande attention. Parce que en fonction de cette élection et de son résultat, on saura quel va être le volume et la qualité et la nature de la coopération entre les États-Unis et les pays du Sahel. De ce point de vue, il y a un vif intérêt à suivre cette élection américaine dans les pays du Sahel.
Alors, les deux principaux candidats eux-mêmes se sont très peu prononcés sur l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans les relations entre les États-Unis et les pays du Sahel en fonction du prochain président? Du moins, est-ce que, selon vous, les Sahéliens perçoivent réellement une différence entre les deux candidats?
Absolument. Il y aura une évolution de la coopération et des relations entre les pays du Sahel et les États-Unis en fonction de l'identité du locataire de la Maison-Blanche. Si jamais c'est Mme Kamala Harris qui est élue, on peut s'attendre à une continuité dans la relation parce que, comme on sait, le président démocrate sortant, Joe Biden, a tenu à ce que les États-Unis restent au Sahel malgré une hostilité qui a été annoncée, en tout cas malgré la dégradation des relations entre les États-Unis et les jeunes et les pouvoirs militaires au Sahel. Par contre, si le président Trump est élu, il est évident que déjà, à la fin de son premier mandat, il avait esquissé le retrait définitif des États-Unis du Sahel en disant que dans cette région du monde, il n'y a que de coups à prendre. Donc si jamais c'est lui qui est installé à la Maison-Blanche, il est évident qu'il reviendra sur cet agenda de la négligence, en tout cas du peu d'intérêt que les États-Unis auront pour la coopération avec les États du Sahel. Cela ne me semble faire aucun doute.
Alors, il y a très clairement une perte d'influence des Américains dans le Sahel. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, Sédhi Kaba, pour réduire cette perte d'influence là-bas?
À mon avis, il faut un changement de stratégie et il faut sortir de la relation verticale. Nous sommes aujourd'hui au Sahel avec des pouvoirs qui ont une posture souverainiste, qui sont soutenus par leur opinion publique. Donc, si les États-Unis veulent revenir au Sahel, il faut qu'ils viennent avec beaucoup d'humilité, avec un sens des relations vraiment horizontales où ils traiteraient les pays africains du pays de cette sous-région d'égal à égal et en choisissant d'accompagner l'agenda. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que ces pays veulent que leur propre définir leur agenda et que les États-Unis accompagnent leur agenda. Si cela est fait, à mon avis, il y a une possibilité, notamment que les États-Unis restent et demeurent au Sahel, principalement dans des secteurs où ils ont un avantage comparatif par rapport aux autres aujourd'hui compétiteurs au Sahel. Sur les questions du développement, ils ont deux instruments importants entre leurs mains, l'AGOA et le Millennium Accord, qui sont des instruments que les États-Unis peuvent utiliser pour justement aider les pays du Sahel à renforcer leur développement, étant entendu qu'au Sahel, le développement et la sécurité forment un nexus qui va de pair. On ne peut pas faire le développement sans la sécurité, ni dans le sens contraire. Donc, de ce point de vue, si les États-Unis introduisent ce changement de paradigme et prennent en compte la posture souveraine de ces États, je pense qu'ils ont encore de la place, ils ont encore une carte à jouer au Sahel.
Alors, l'une des raisons de la présence américaine dans le Sahel, c'était la lutte contre le terrorisme. Mais après le retrait des forces et du matériel américain de la base 201 d'Agadez au Niger, est-ce que, selon vous, les États-Unis peuvent encore jouer un rôle dans la lutte contre l'insécurité dans la région?
Ah oui, les États-Unis peuvent le faire. Ce qui change fondamentalement, c'est la présence visible avec une grande caserne, comme on a pu le voir à Agadez. Il y a un moyen de poursuivre la lutte contre le terrorisme aux côtés de ces États d'une façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus coordonnée avec les États. Les Américains ont des moyens satellitaires qu'aucun pays du monde n'a, y compris la France, lorsqu'elle était au Sahel, elle s'appuyait sur les moyens satellitaires. Donc, il y a des choses que les États-Unis peuvent apporter. Ils ont déjà équipé des pays comme le Niger. Ils peuvent continuer à les équiper, ils peuvent continuer à les former, puisque je rappelle que en octobre 2017, il y a 4 bérets verts américains qui sont morts aux côtés des soldats nigériens dans le cadre justement d'un exercice conjoint, d'un accompagnement. Donc, il y a des secteurs encore où les États-Unis, sans être forcément présents, avec une grande présence militaire, peuvent accompagner les pays africains, peuvent les aider à lutter contre le terrorisme. Ça me semble quelque chose de tout à fait possible.
Merci infiniment, Sédhi Kaba. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Merci de nous avoir répondu depuis Paris en France. Et puis, deux commentaires que nous avons sélectionnés sur la page Facebook de VOA Afrique. Lasga Sek qui dit « La présidentielle américaine a effectivement un enjeu sur les relations entre les États-Unis et les pays africains. Au fait, l'administration démocrate est plus tolérante en matière d'immigration. Cependant, les républicains investissent beaucoup plus en Afrique. Par rapport aux pays du Sahel, le départ des troupes américaines du Niger n'aura pas beaucoup d'incidence sur les relations entre les États-Unis et les pays du Sahel, car l'Amérique a toujours une coopération avec le Niger et les pays du Sahel. » Et puis, Alphonse Mouaki dit « Les trois pays de l'AES refusent un pouvoir américain qui ne tient pas compte de leur souveraineté, le respect de leur indépendance et de leur propre choix de puissance avec qui ils coopèrent en partenariat militaire et économique. » Un grand merci à Lasga Sek et Alphonse Mouaki. Un grand merci également à tous ceux qui ont réagi sur le sujet. La suite, c'est dans quelques instants.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Parlons maintenant de l'insécurité qui affecte le Burkina Faso au moment où les combattants islamistes cherchent à étendre leur empreinte en Afrique de l'Ouest. Cette source, dont des responsables de la sécurité et des diplomates ghanéens, ont déclaré à l'agence Reuters que les combattants utilisent discrètement le nord du Ghana comme base arrière, logistique et médicale. Les précisions avec Gaby Dorsil.
Le Burkina Faso a perdu le contrôle de plus de la moitié de son territoire à la suite de la progression d'un groupe pro-Al-Qaïda connu sous le nom de Djenim. Dans un rapport récent, Klingendael de l'Institut néerlandais des relations internationales a déclaré que le Ghana semblait avoir accepté un pacte de non-agression de facto avec le Djenim, citant des sources gouvernementales de haut rang. Les experts estiment que cela risque de permettre aux militants de s'enraciner au Ghana.
Nous avons constaté un certain nombre d'incidents au cours desquels le Djenim ou des associés du Djenim sont probablement présents au Ghana depuis un certain temps, passant temporairement et effectuant des achats, essayant parfois de recruter. Il s'agit donc d'un véritable signal d'alarme.
Le Ghana organise des élections le 7 décembre. Il est considéré comme une démocratie forte et entretient des relations étroites avec l'Occident.
Le Ghana veut vraiment s'assurer que les élections auront lieu et qu'il n'y aura pas d'attaque. Ils connaissent bien sûr les risques qu'ils courent au Ghana et savent de quoi les extrémistes sont capables et ils veulent vraiment empêcher cela. Le Djenim, en même temps, va devoir faire face à une armée très engagée et très forte, je dirais. Et je veux dire, ils ne veulent pas attaquer leur propre ligne de ravitaillement et leur refuge.
Le Ghana partage une frontière de 643 kilomètres avec le Burkina Faso. Le pays est au cœur d'une insurrection qui a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Selon les experts, la région du Sahel est désormais l'épicentre du terrorisme mondial, car les factions fidèles à Al-Qaïda et à l'État islamique étendent leur présence. Contrairement au Bénin et au Togo, le Ghana n'a pas subi d'attaque majeure. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso a déclaré à Reuters que les militants profitaient de la porosité des frontières. Il a démenti l'idée d'un pacte de non-agression avec les djihadistes et a déclaré que le Ghana travaillait avec le Burkina Faso pour les débusquer.
Donne en lieu et place de Gaby Dorsil. À présent, le fait marquant de la semaine, les djihadistes de Boko Haram ont mené une attaque dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigeria, et tué une quarantaine de militaires tchadiens, suscitant une contre-offensive des forces de N'Djamena. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place et a donné le coup d'envoi de l'opération Haskanit pour poursuivre et traquer les assaillants, selon un communiqué du gouvernement tchadien. Pour en parler, retrouvons un N'Djamena, Judah Alaoundoum, journaliste, directeur de publication du journal Le Visionnaire. Bonsoir, Judas.
Bonsoir à l'ensemble des auditeurs.
Voilà. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de l'attaque? Comment les assaillants ont-ils pu infliger une si lourde perte aux soldats tchadiens?
Selon nos informations, les djihadistes ont surpris les éléments des forces de défense et de sécurité dans la nuit. Ils auraient profité de la baisse des gardes et des éléments des forces de défense de sécurité du Tchad pour pénétrer nos camps et attaquer ces éléments-là pour faire autant de morts, une quarantaine selon les sources officielles, mais selon certaines sources, on parle d'une soixantaine de morts et de nombreux blessés. Vous savez, Boko Haram attaque toujours ce que... En fait, vous baissez la garde. Donc, depuis un certain temps, dans la région du lac Tchad, les éléments de Boko Haram profitent d'une baisse de garde des éléments de forces de défense et de sécurité ou bien des éléments de forces mixtes qui sont installés là pour attaquer et faire d'énormes dégâts. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. C'est une attaque surprise et cela fait d'énormes dégâts dans le camp de l'armée tchadienne située à Barkaram, dans la région du lac Tchad.
Alors, Judas, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une telle attaque, en tout cas une attaque d'une telle ampleur. Comment est-ce qu'on vit cela à N'Djamena? Qu'est-ce que les médias disent? Qu'est-ce que les responsables politiques et les Tchadiens en général disent? Comment vivez cela à N'Djamena?
C'est la consternation et vous savez, le gouvernement a déclaré 3 jours de deuil national. Ça a commencé aujourd'hui à minuit, 3 jours de deuil national. C'est la consternation et la population se pose la question de savoir si Boko Haram n'étendra pas ses tentacules jusqu'à la capitale, comme ça a été le cas en 2015, où les attaques terroristes ont fait d'énormes dégâts dans la cité capitale. Dans la classe politique, ce sont des condamnations. On a eu plusieurs condamnations des chefs des partis politiques, des responsables diplomatiques également, des chancelleries. Il y en a qui ont condamné cette attaque des terroristes. C'est la psychose, hein, c'est la psychose, mais la population va normalement à ses occupations en attendant une...
Alors, Judas, le président Mahamat Idriss Déby était sur le terrain. Il faut dire que c'est un général, un militaire. Il a annoncé une riposte. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette opération qui a été baptisée opération Askanit? Judas? Alors, je crois qu'on a perdu Judas à la Houndoum depuis N'Djamena au Tchad. Judas, c'est le directeur de publication du journal Le Visionnaire qui était avec nous pour parler de cette actualité des soldats tchadiens qui ont été tués, une quarantaine dans la zone du lac Tchad. Merci en tout cas à Judas à la Houndoum d'avoir été avec nous aujourd'hui. La suite, c'est dans quelques instants.
Je suis en train de jouer la promo là maintenant.
Alors. Donc, on va continuer avec la note positive de cette édition de Focus Sahel pour parler de la deuxième édition du Festival international du film de Nouakchott qui s'est achevé samedi dernier. Après avoir réuni les participants de 18 pays, le premier prix a été décerné au film saoudien Nora, déjà présenté au Festival de Cannes. À Nouakchott, l'on espère que ce festival pourra donner un nouvel élan au cinéma mauritanien. Les détails avec notre correspondant. Mohamed Diop.
Au festival du film de Nouakchott 2024, Les Lueurs d'Aden du réalisateur yéménite Amar Gamal a remporté le premier prix parmi 5 longs métrages en compétition. Ce film raconte l'histoire d'un avortement dans une société en guerre où la pratique est bannie, explorant les tabous et pressions sociales. Des participants de 18 pays africains et arabes étaient présents, y compris l'Ivoirienne Isabella Maya, qui a présenté un court-métrage sur les drames familiaux.
Donc j'ai réalisé le film qui s'intitule Rosalie, qui parle un peu d'un drame familial, qui parle aussi de des enfants placés dans les familles, quand tu perds par exemple tes parents, que tu vas chez ton oncle ou ta tante et que ça se passe mal, ou le fait aussi qu'on a tendance à ne pas s'entraider vivant. Et voilà, donc ce sont ces thématiques-là que j'aborde dans Rosalie.
Le festival a également mis en avant de nouveaux talents comme Ahmed Matalla. Son film Arous dénonce le mariage forcé.
Dans le nord de la Mauritanie, certains orpailleurs jouissent de richesses, ce qui pousse des familles à marier leurs filles à ces hommes sans tenir compte de la poursuite de leurs études. Ce type de mariage entraîne souvent des litiges juridiques qu'on pouvait éviter. Les parents doivent comprendre que l'époque où l'on forçait une fille au mariage est révolue. Une fille doit avoir la liberté de choisir son partenaire de vie.
Cette année, des innovations ont été apportées pour soutenir le cinéma mauritanien, selon le directeur du festival, Mohamed Moustapha Alban.
Un marché de la production a été inauguré pour soutenir l'industrie cinématographique et offrir un service intégré aux sociétés de production. Le festival a aussi lancé la Cinémathèque de Nouakchott pour documenter et conserver tous les films produits en Mauritanie par des nationaux ou des étrangers.
En outre, des participants ont été formés en production cinématographique dont ce jeune homme.
Nous sommes venus au festival du film de Nouakchott pour apprendre et acquérir l'expérience auprès des pionniers de ces domaines. Nous cherchons à tracer notre chemin dans l'industrie cinématographique de manière professionnelle.
Pour le réalisateur mauritanien Mohamed Ouldou Idomou, le festival contribue au rayonnement culturel du pays.
Le Festival international du film et de Nouakchott est une expérience qui valorise le cinéma mauritanien en répondant à un besoin culturel pressant et renforçant les capacités des jeunes grâce aux ateliers de formation. Et cela favorise le développement du cinéma et du mouvement culturel national.
Enfin, la Palestine invitée d'honneur a été célébrée en hommage au peuple de Gaza. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
Après le Burkina Faso, après la Mauritanie, le Burkina Faso, dernière escale de ce voyage dans le Sahel, où nous parlerons de deux ingénieurs qui ont mis sur le marché depuis quelques années une box solaire ayant un suivi à distance et qui permet de fournir de l'électricité solaire aux ménages peu nantis ou vivant dans les zones rurales. Voyons ce reportage de Gildas Da depuis Ouagadougou.
Dans les locaux de l'entreprise Alliot Systems, les techniciens sont à la tâche pour finir le montage d'appareils appelés TerreBox. Ce sont des box conçues pour fournir les ménages en électricité solaire, selon Abdallah Dissa, directeur général de Alliot Systems.
C'est la box TerreBox qui inclut donc l'électronique, le système de contrôle, le système de paiement Paygo, la communication à distance. Et voilà, les différentes connectiques pour aller donc distribuer l'énergie dans la maison et aussi le panneau solaire qui va donc produire l'énergie journalière stockée dans la batterie à l'intérieur et pouvoir aussi injecter au cours de la journée.
La box est fournie avec un ensemble de matériel dont une radio, une télé, un ventilateur et des ampoules.
On s'est dit qu'au minimum, quand on a de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait d'abord avec ? Il faut de l'éclairage pour la sécurité du foyer, permettre aux élèves d'étudier. Suffisamment d'éclairage, parce que c'est pas seulement pour les élèves, la ventilation que j'avais oubliée, qui permet donc d'avoir, voilà, dans nos pays chauds, là, d'avoir quand même quelque chose pour un confort minimal. Donc voilà, l'éclairage, la ventilation, la télé, une torche aussi, et puis une radio. Enfin, tous ces produits sont inclus dans ce kit-là.
Nous avons rencontré cette cliente. Abibou Zundi habite à Tabtenga, une zone d'habitat spontané sans électricité dans la périphérie de Ouaga.
La box a beaucoup d'avantages. Depuis que je l'ai, nous ne dormons plus dans le noir. On a désormais de la lumière. Je n'ai pas eu de problème avec le matériel, hormis mon poste radio qui était tombé en panne. Mais ils sont venus le réparer. Mes enfants, eux, peuvent suivre la télé à tout moment. Ça a été très bénéfique pour moi.
Noé Nabaré lui a installé la TerreBox dans son commerce pendant la période de délestage qu'a vécu Ouagadougou. Et depuis, sa boutique ne fonctionne que par ce système.
J'ai eu la box pendant la crise de l'électricité, quand il y avait délestage. Mes voisins avaient des problèmes, mais pas moi. Ma boutique restait éclairée. Je regarde la télé, mon ventilateur fonctionnait normalement. Jusqu'ici, je n'ai pas de problème. J'espère avoir les moyens pour prendre une box plus puissante. Avec mes calculs, ça me revient moins cher que les factures d'électricité classiques. La méthode de paiement me va bien et bientôt j'aurai fini et le matériel sera à moi définitivement.
TerreBox a été conçu en 2018 par deux jeunes ingénieurs burkinabés avec pour objectif de fournir de l'électricité solaire dans les zones non électrifiées. TerreBox a reçu la certification Verasol, ce qui signifie que le produit répond aux normes internationales. Selon Abdallah Dissa, plus de 30 000 box ont déjà été vendues au Burkina et dans 5 autres pays de la sous-région ouest africaine. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et c'est avec ce reportage de Gildas Da que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci à Sedi Kaba à Paris et à nos différents correspondants qui nous ont permis d'avoir des nouvelles fraîches du Sahel. Merci à Lionel Gaïma et Trésor Matundo qui ont assuré la production de cette émission que vous pouvez retrouver en ligne sur voaafrique.com. À très bientôt.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.